Rendez-vous à 12h30 pour le journal au complet. Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du jeudi. Qui veut encore diriger le monde alors que la fin du leadership américain semble se confirmer? Chine, Russie, y a-t-il de nouveaux prétendants à la conduite des affaires du monde? Et si l'hégémonie était un mythe? À partir de 12h55, rendez-vous avec le politiste Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, auteur de l'hégémonie contestée chez Odile Jacob. Mais d'abord, le royaume désuni. Dans le cœur de l'Angleterre, publié chez Gallimard, Jonathan Coe raconte le délitement de la société britannique et les crispations identitaires à travers le destin d'une famille, avec toute la tendresse que l'écrivain porte à ses compatriotes, mais sans rien laisser passer de leurs travers et de leurs paradoxes. Présenté comme le premier roman du Brexit, l'écrivain britannique livre ici une version intime de cet événement politique majeur. Jonathan Coe est l'invité de la Grande Table jusqu'à 12h30.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
L'auteur de Testament à l'anglaise revient avec un nouvel épisode de la saga Trotter, 17 ans après son premier volet, Bienvenue au Club. Comme l'écrivain, son protagoniste Benjamin vit et écrit aujourd'hui dans la nouvelle Angleterre du Brexit. Bonjour Jonathan Coe.
Hello.
Et bonjour à votre voix française, bienvenue à vous.
Bonjour, je suis ravie d'être ici.
Marguerite Capelle.
Bonjour.
Dans ce roman, on fait connaissance avec toute une galerie de personnages, conseillers en communication, journalistes, politiques, clowns, universitaires. Mais on y retrouve d'abord la famille Trotter de Bienvenue au Club et du Cercle Fermé. Benjamin ou Benjamin, sa sœur Loïse, sa nièce Sophie. La famille est un bon laboratoire pour vous, Jonathan Coe?
Par rapport à ce que je fais d'habitude, ce roman a été plutôt facile à écrire parce que la plupart des personnages avaient existé déjà. Ils étaient prêts et n'attendaient que moi. Je n'avais pas vraiment pensé à eux depuis 10 ou 12 ans. Mais je les ai retrouvés tout prêts à se saisir de cette histoire. Donc il n'y a que peut-être deux ou trois nouveaux personnages finalement dans le livre. L'un d'entre eux, c'est Ian, le mari de la nièce de Benjamin, Sophie, parce que je voulais raconter l'histoire du Brexit à travers l'histoire d'un couple. Un couple incompatible de bien des manières et qui a des valeurs opposées. Mais qui doit trouver une manière de vivre ensemble et de construire leur vie ensemble. Ce qui est la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Royaume-Uni.
Mais cette famille, vous étiez en tout cas plutôt heureux de la retrouver, plutôt heureux de voir chacun de vos personnages grandir aussi. On vous sent assez proche de Sophie, la nièce de Benjamin.
Oui, je crois que malgré le fait que ce roman traite du Brexit, qui est un sujet qui divise énormément et qui est très difficile actuellement dans l'histoire récente de l'Angleterre. En fait, je crois que c'est un de mes romans les plus bienveillants, les plus détendus. Il y a tellement de violence, tellement d'agressivité, tellement de division en politique. Et autour des sujets idéologiques, pas uniquement en Grande-Bretagne, dans tous les pays, que j'avais envie de montrer des situations dans lesquelles les personnes ne sont pas d'accord, parfois ces désaccords sont profonds, mais où il reste de la place pour de la gentillesse, pour de la générosité, pour cette vie quotidienne, ces petites choses du quotidien qui rendent la vie possible et qui la rendent digne d'être vécue.
Alors, si le référendum a divisé le pays, séparera-t-il aussi les couples, les familles ou les amis? On imagine que les discussions ont dû être assez vives à la table des Anglais ces 10 dernières années. Vous, vous vous êtes fâché avec des proches?
J'ai eu la chance. La plupart des personnes que je connais, aussi bien dans mon cercle amical ou dans ma famille, bien sûr, il y a des désaccords sur différents sujets, mais sur le point central qui a divisé le pays, sur la question du Brexit, la plupart des personnes que je connais ont le même point de vue que moi.
But it's, you know, people think that I have exaggerated things in
this
novel.
Mais les gens ont l'impression que j'ai exagéré des choses dans ce roman. Par exemple, l'existence d'un conseiller marital qui propose une thérapie de couple précisément pour affronter les conséquences du Brexit. Mais c'est vrai, en fait, il y a des conseillers conjugaux spécialisés dans le Brexit aujourd'hui qui aident les couples à traverser ces moments politiques difficiles. Et le défi quand on écrit sur la société britannique et sur la politique britannique actuellement, ce n'est pas d'exagérer la réalité, mais c'est de réussir à suivre la réalité.
Et c'est comme un court trajet en voiture. Vous écrivez, Benjamin attacha sa ceinture, ferma sa portière et baissa la glace de son côté. C'est toujours une aventure, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Parfois c'est sympa, parfois c'est désagréable. Et le plus souvent, c'est tout ce qu'il y a de plus bizarre. Mais voilà, c'est l'Angleterre et elle nous colle aux semelles. Alors on entre avec vous dans cette Angleterre qui a fait un pas de géant en 2016 en choisissant de quitter l'Union européenne. Remain or leave, ce vote a divisé. Où, au fond, on n'a peut-être fait que révéler les fractures nationales déjà existantes. Et c'est ce que vous cherchez à travers votre plume de romancier. Vous l'écrivez, on croyait les Anglais modérés. En juin 2016, ils ont fait un choix radical, sortir de l'Union. C'est ce paradoxe que vous analysez et on vous sait gré de ne pas réduire ce choix à une saute d'humeur, de chercher au contraire à bien comprendre les lignes de fond qui ont pu travailler le pays. Aujourd'hui, vous diriez que ce qui est arrivé devait arriver. Ou vous croyez encore un peu à la thèse accidentelle?
Eh bien, comme beaucoup de Britanniques, j'ai été surpris par le résultat du référendum. Je me suis réveillée le matin du 24 juin 2016 dans un état de choc à propos de la décision prise par les Britanniques. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on commence à observer la société britannique, dans la perspective de cette histoire récente, on voit la dimension inévitable et la dimension logique. L'une des premières réactions que j'ai eues face à ce roman est venue d'un lecteur italien qui m'a écrit, une lectrice italienne. Je lui avais posé la question de est-ce que ce roman n'était pas trop britannique, est-ce qu'il pouvait être compris ailleurs en Europe, et elle m'a répondu non. Ce roman me semble parler de la société italienne. Et les gens qui ont lu le livre en France me disent la même chose. Je pense que ce qui a conduit au vote pour le Brexit, il y a le même type de mécontentement, le même type de frustration, de désaccord dans tout l'Occident aujourd'hui. Et je vois énormément de parallèles entre le mouvement des Gilets jaunes et le vote pour le Brexit.
La vie n'est qu'une ombre errante, un conte raconté par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. C'est du Macbeth, c'est du Shakespeare. A tale told by an idiot. C'est nothing, nothing, hein? Le rôle de l'écrivain, c'est de lui donner du sens à cette vie, à ce conte raconté par un idiot.
En fait, je suis un écrivain assez égoïste. J'écris pour moi. J'écris pour essayer de comprendre le monde un peu mieux, pour essayer de comprendre la nature humaine, pour mieux comprendre mon pays. Et si, en ce faisant, je raconte une histoire qui peut-être permet de partager avec d'autres des choses que j'ai découvertes moi-même, alors c'est formidable. Mais en fait, écrire pour moi, c'est une forme de thérapie. Et le référendum m'a laissé en état de choc, j'étais perdue. Et l'écriture du cœur de l'Angleterre a été un exercice pour moi pour essayer d'écouter.
In creating imaginary characters,
et pour créer des personnages imaginaires, leur permettre de s'exprimer et me dire ce qu'ils ressentent, leur point de vue. Et ce que j'ai fait, c'est écouter et je l'ai posé sur la page.
Une introspection, une thérapie pour vous, l'écriture de ce roman. En mai dernier, j'avais posé au photographe Martine Parr la question « Est-ce que le Brexit est, à ses yeux, un événement photogénique ?» Écoutez sa réponse.
Non,
très difficile de photographier le Brexit, mais j'ai une exposition au National Portrait Gallery à Londres. Et dans une salle, je dépeins la Grande-Bretagne de par les effets secondaires du Brexit. C'est un sujet difficile de photographier. À moins de photographier les manifestations, ça c'est assez facile, mais moi j'essaye de travailler le sujet de façon un peu subtile. Je ne sais pas si c'est réussi, mais j'essaye.
Eh
bien, l'avènement du nationalisme britannique est une des causes du vote du Brexit. Donc, moi, j'ai photographié la manifestation de Saint-Georges, là où le vote pour le Brexit a été le plus important. Sinon, j'ai photographié des lieux comme Bristol, là où je vis, moi, les grandes villes britanniques ont voté Remain, donc contre le Brexit, et ce sont les gens qui souffrent financièrement qui ont voté pour le Brexit. Ils sont en colère, ils veulent se débarrasser de l'establishment, c'est pour ça qu'ils ont voté pour le Brexit, notamment dans les zones rurales.
Est-ce que vous diriez, comme Martin Parr, Jonathan Coke, ce roman, dont on a dit qu'il était un roman du Brexit, et peut-être en tout cas celui qui a été le plus difficile pour vous à écrire?
En fait, ça a été un des plus faciles à écrire de tous mes romans. En partie, comme je le dis, parce que les personnages existaient déjà et qu'ils n'attendaient que moi pour que je raconte leur histoire. Mais aussi parce que dans ce roman, contrairement à certains autres que j'ai écrits, je n'ai pas forcé les personnages à entrer dans une intrigue préécrite. J'ai simplement pris deux histoires parallèles, celle de mes personnages et celle de l'Angleterre entre 2010 et 2018. Et j'ai simplement laissé courir ces histoires de façon parallèle et je les ai laissées parfois se croiser ou se mêler d'une manière aussi naturelle que je pouvais y parvenir.
Si on dit que c'est un roman du Brexit, on peut penser que le Brexit, à défaut d'être un sujet photogénique, est un sujet littéraire. Et c'est vrai qu'il a engendré aussi sa propre catégorie littéraire. Si on dit que c'est un roman du Brexit, est-ce que c'est forcément un roman anglais? Ou est-ce que votre livre, Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, vous le voyez typiquement comme un roman européen?
Well, I've always felt a strong sense of European identity.
J'ai toujours eu un sentiment d'identité européenne très fort. Et en même temps, je me sens aussi très fortement attaché à l'identité anglaise. Quand on revient en arrière, historiquement, le roman anglais tire ses racines du roman européen. Quand Fielding écrivait Tom Jones ou Joseph Andrews, son grand modèle, c'était Cervantes. Il a même écrit une pièce qui s'appelait Don Quichotte en Angleterre, dans laquelle, littéralement, il ramenait ce personnage central du roman européen dans un contexte anglais. Donc je ne vois aucune contradiction entre mon européanité et mon identité anglaise. Et une des choses les plus douloureuses au sujet du référendum pour nous, c'est qu'on a eu le sentiment qu'on nous demandait de choisir de façon binaire entre cette identité anglaise et cette identité européenne. Et ce n'est évidemment pas aussi simple que ça. Les identités nationales, personnelles, sont multiples et nuancées. Et ambigu.
C'était aussi le très beau plaidoyer que faisait l'écrivain espagnol Javier Cercas juste avant les élections européennes, disant exactement comme vous, revenant sur cette idée que la littérature européenne existe depuis toujours, que c'est en France et en Angleterre qu'on a compris Cervantes avant les autres, et que peut-être ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est un système littéraire européen. Mais il y a bien pour vous, à vos yeux aujourd'hui encore, une culture commune?
Oui, absolument, il y a une culture commune. Et ma génération le ressent particulièrement, et encore plus la génération des plus jeunes d'ailleurs. Une des tragédies du Brexit, c'est que 80% des gens de moins de 25 ans ont voté pour rester dans l'Union européenne. Ils ont grandi avec un sentiment d'appartenance aussi bien à l'Europe qu'à l'Angleterre. Et leur identité européenne leur est retirée malheureusement. malgré eux.
On va revenir ou repasser outre-Manche avec une actualité musicale, si vous le voulez bien, Jonathan Coe, avec Metronomy, qui sort et fait paraître un nouvel album, Metronomy Forever.
I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though, cause I got time. Time isn't my essence and time isn't the line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz lately I'll call you when I do nothing. Call you when I do nothing. Oh,
Metronomy Forever, c'est le titre du nouvel album du groupe électropop anglais. De retour après 3 ans de silence, ce groupe fondé par Joseph Mount avec ce titre Lately. Mieux vaut tard que jamais, France Culture. On est avec notre invité, l'écrivain romancier britannique Jonathan Coe, jusqu'à midi et demi.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Les détails ou événements de l'actualité qui nourrissent ce roman, Le cœur de l'Angleterre, Jonathan Coe, comme les émeutes de 2011 ou encore tous les yeux rivés sur le poste de télé le soir de la cérémonie des JO en 2012. Tous ces éléments, ces détails que vous portez dans le roman sont des ambiances que vous avez consignées sur le moment ou vous vous appuyez sur vos souvenirs?
Non,
je me suis surtout appuyé sur mes souvenirs.
And, you know, research for novels like this has become,
les recherches pour ce genre de roman, c'est devenu beaucoup plus facile ces dernières années. Quand je reviens sur le roman Le Testament à l'anglaise que j'ai publié il y a 25 ans, je me demande comment j'ai fait pour mener ces recherches pour ce livre-là, parce que c'était avant Internet.
Vous alliez à la bibliothèque.
Oui, j'allais à la bibliothèque. Je lisais des livres, je lisais des journaux. J'avais une approche très physique du papier, de l'imprimé. Maintenant, c'est très facile de retrouver sur le web la chronologie d'histoire récente. Donc, mon travail a été simplement de dessiner une sorte de chronologie, justement, de l'histoire britannique des 7 ou 8 dernières années et de réfléchir à la suite d'événements pour en tirer une structure narrative et choisir ce qui seraient les éléments forts, les temps forts dans la vie de mes personnages et dans la vie du pays. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 m'a immédiatement sauté aux yeux parce qu'il m'a semblé que c'était un moment où les Britanniques s'étaient unis autour d'un esprit d'optimisme avec énormément d'énergie partagée. Il y avait cette image d'eux-mêmes qui était vraiment ancrée dans l'histoire profondément, mais qui était aussi en même temps ouverte et ironique et tournée vers l'avenir. Et ça me semblait incroyable qu'on ait pu se voir de cette manière-là en 2012 et 4 ans plus tard avoir cette campagne si divisée autour du Brexit.
Et ce décalage, comment vous l'expliquez aujourd'hui?
Eh bien, j'essaie de l'expliquer dans le livre.
C'est une matière vivante pour vous, ces événements dans la vie des Britanniques sur ces 10 ans que vous racontez. Matière vivante aussi pour ce roman, Le cœur de l'Angleterre. L'histoire court sur une décennie. Elle commence en 2010, peu après la crise financière, jusqu'à aujourd'hui. Mais le mal est plus ancien, n'est-ce pas, Jonathan Coe?
J'ai dû choisir un point de départ. Et j'ai choisi 2010
parce que c'est le moment où
la Grande-Bretagne a élu un gouvernement de coalition pour la première fois.
C'était un des premiers signes que peut-être
le système politique existant, bipartite, n'était plus adapté aux besoins de la population. Mais j'aurais pu remonter à 2009,
when there was a major scandal in the newspapers,
quand il y a eu un grand scandale dans les journaux au sujet de politiciens britanniques qui avaient déclaré de fausses dépenses,
ce qui a
créé une grande désillusion au sujet de la classe politique. J'aurais pu revenir au début de la guerre d'Irak en 2003, quand les Britanniques ont eu l'impression qu'on leur avait menti, que le Premier ministre leur avait menti sur les raisons pour entrer en guerre. J'aurais pu revenir en 1979 à l'élection de Margaret Thatcher. J'aurais pu revenir au XVIIe siècle et à la guerre civile. Mais j'ai pensé que 2010, ce serait plus facile.
Et les années Thatcher et les années Blair étaient déjà dans vos deux précédents romans. Arrêtons-nous quand même un instant sur 1998 et ces mots de Tony Blair.
L'homme de la rue voit le changement arriver à une allure et dans des proportions qui lui font peur. Il veut la sécurité dans la tourmente. Il essaie de maîtriser sa vie, alors même qu'il est ballotté de tous côtés. La mission d'un gouvernement moderne consiste à l'y aider, malgré ce dilemme. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas s'opposer au changement, qu'ils ne trouveront pas le salut dans l'isolement, que c'est impossible à faire ça. Mais ils ne veulent pas non plus que le changement les emporte, qu'ils prennent le dessus. Il nous revient donc d'équiper nos concitoyens dans cette perspective, de donner une forme au changement, de lui donner un sens, d'en mesurer l'ampleur pour en contrôler les effets.
Tony Blair, à l'Assemblée nationale en France et en français en 1998. Ils ne peuvent pas s'opposer au changement, les gens, les hommes, les femmes de la rue. Mais c'est faux, en 2016, ils s'y sont opposés à ce changement. Est-ce qu'on entend là, dans ces mots, vous entendez là, vous, dans ces mots de Tony Blair, le propos d'un pompier pyromane? Est-ce que ce sont justement tous ces hommes politiques, et pas lui spécifiquement, qui n'ont pas su, les uns après les autres, équiper l'homme de la rue? Est-ce qu'ils n'ont pas su lui donner envie de croire au changement et l'équiper d'un espoir pour l'avenir?
C'est très intéressant de réécouter Tony Blair parce que il est devenu lui aussi une personnalité qui divise énormément dans la politique britannique et dans l'histoire récente du pays. Bien sûr, lui est tout à fait en faveur de l'appartenance à l'Union européenne et il est revenu dans la vie politique anglaise ces dernières années pour défendre l'appartenance à l'Union européenne. Mais pourtant, il suscite beaucoup de défiance à cause de cette histoire avec la guerre d'Irak. Il y a 15 ans. Ce qui me frappe en l'écoutant, c'est la difficulté d'utiliser le vocabulaire dont il se sert quand il parle des hommes ordinaires ou des femmes ordinaires dans la rue et de leurs besoins et de leurs difficultés et de leur capacité à s'adapter au changement. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère politique actuelle, les gens décriraient ce discours comme un exemple d'élitisme. Et dirait que ça fait justement partie du problème que beaucoup de gens ont avec la classe politique Surtout ces dernières années, une des critiques principales formulées par les populistes comme Nigel Farage contre des personnalités comme Tony Blair, c'est précisément qu'ils sont loin, éloignés, ils ont une distance avec les problématiques des gens ordinaires qui ne les comprennent pas. Cette division, qui est complètement artificielle entre l'élite d'un côté et le peuple de l'autre, est devenue extrêmement prégnante dans le discours politique britannique de ces dernières années, et c'est l'un des changements que j'essaie de décrire dans le roman.
Voilà, parce que dans ce roman, on croise Gordon Brown, David Cameron, Ed Miliband, mais on comprend aussi, à travers cette froideur de ces hommes politiques, la séduction que les politiciens d'après ont pu opérer, comment ils en sont venus à parler au cœur et au ventre des Anglais. Si vous aviez un mot à dire, vous, au cœur de l'Angleterre, aujourd'hui, Jonathan Coe, ce serait quoi ?
That's a difficult question.
C'est une question difficile. Ce que j'encouragerais les gens à faire, ce que je presserais les gens de faire, c'est d'écouter davantage, plus de dialogue, moins de précipitation à juger les autres, moins de précipitation à se vexer. Nous devons trouver des nouvelles manières plus accommodantes, plus ouvertes d'avoir ces débats politiques qui sont extrêmement difficiles mais qui sont inévitables. Ils sont devenus depuis ces quelques années. La plupart des difficultés de la vie politique britannique actuellement ont à voir avec le type de discours et le type de vocabulaire utilisé. Et bien sûr, les réseaux sociaux ils jouent un rôle là-dedans.
Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci Jonathan Coe. Merci à Marguerite Capel pour sa traduction et pour votre traduction du roman. C'est José Camoun qui l'a signé pour les éditions Gallimard. Merci beaucoup.